Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi, vous écoutez l'émission Lille 1 Info, mercredi de 17h30 à 18h. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la protection sociale et à la mutualité. J'ai le plaisir d'accueillir M. Stéphane Dorchy, directeur de la MGEN du Nord. Bonjour M. Dorchy.
Bonsoir.
Donc la MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. On va peut-être définir un petit peu ses missions, peut-être à quel moment elle a été créée et pour qui, pourquoi.
Alors la MGEN existe depuis, au moins au niveau national, depuis 1946. C'est en fait un organisme qui gère la sécurité sociale de tous les enseignants ou personnel de l'éducation nationale, de la culture, et qui a été créé dans le Nord en 1948, puisqu'on vient d'en fêter le 60e là, cette année.
On peut peut-être donner le contexte social de l'époque, 1948.
Oui, alors en 1945 a été créée en fait la sécurité sociale qui s'adressait uniquement aux personnes travailleurs dans les entreprises privées. Et la sécurité sociale, en fait, n'existait pas pour toutes les autres professions. Mmh. Donc c'est ce qui vaut que, actuellement, on a grosso modo 40% de régimes spéciaux qui existent, l'éducation nationale, les fonctionnaires en général, l'EDF, SNCF, etc., qui ont des régimes spécifiques au niveau sécurité sociale. Donc au départ, la sécurité sociale a été créée uniquement pour les travailleurs salariés, et il n'y avait rien pour les autres, en fait, en protection.
Qui dit spécifique dit souvent différent. C'est quoi la différence de la MGEN?
Alors un peu différent, mais je dirais que pour les fonctionnaires, on fait partie en fait du régime général. Mm-hmm. Donc on a exactement les mêmes règles que le régime général et la sécurité sociale de tout travailleur français.
Donc ça c'est pour l'aspect sécurité sociale, mais il y a l'aspect complémentaire.
Alors l'aspect complémentaire, oui, parce qu'en fait la MGEN est le regroupement de quantité de petites mutuelles qui existaient un peu partout en France. Des mutuelles d'enseignants qui existaient déjà depuis Jules Ferry et l'invention de l'école. Et en fait, les gens se sont regroupés entre eux pour différents sujets, c'est-à-dire dès que quelqu'un était malade pour la tuberculose ou des maladies de ce type-là, les gens se regroupaient entre eux, mettaient au pot commun dans une caisse, et puis le jour où il y en avait un qui était malade, on faisait tout pour l'aider et pour le sortir de sa maladie. Et c'est le regroupement de toutes ces mutuelles qui existaient un peu partout sur le territoire, avec l'aide des syndicats de l'éducation nationale à l'époque, qui a fait la création de la MGEN en 1946.
La mutualité, c'est un mouvement, on peut dire, un mouvement citoyen?
C'est un très grand mouvement, citoyen, qui existe depuis le 19e siècle, en fait, mais de la même façon, qui était un peu dispersé sur tout le territoire et qui s'occupait un peu de différentes choses, mais toujours assez raccroché à la santé, à la solidarité. C'est-à-dire que dès que quelqu'un qui avait ou bien la même profession ou bien qui était dans les alentours, dans le village, dans le canton, etc., on s'arrangeait pour l'aider, on créait, il y avait des mutuelles qui existaient comme ça un peu partout pour aider les gens au niveau social ou au niveau santé.
Donc monsieur Dorchy, là vous avez rappelé l'origine et aussi l'éthique mutualiste. Mmh. Est-ce que cette éthique-là, on la retrouve au travers de toutes, entre guillemets, les officines qui se disent mutualistes?
Alors, normalement, oui, mais il y a des fausses mutuelles et des vraies mutuelles, je dirais.
Ça demande quelques explications.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'éthique de la mutualité est bien de... la solidarité à la base, ça c'est la philosophie de base. Et, je dirais l'égalité entre les membres et le fait qu'il y ait des assemblées générales où chaque personne possède une voix. En fait, c'est... C'est ce qu'on appelle, grosso modo, on fait partie de l'économie sociale, en fait, où il y a non-lucrativité, chaque personne représente sa propre voix et peut voter au sein d'une assemblée générale, et puis on n'a pas d'actionnaire. C'est vraiment le symbole très fort de la mutualité, c'est là qu'on le reconnaît. Donc il y a effectivement quelques entreprises qui se font appeler mutuelles, mais qui sont loin d'être des mutuelles parce qu'elles n'ont pas d'assemblée générale, elles ne sont pas non lucratives et il n'y a pas de représentants des adhérents. En fait.
Alors, on peut dire qu'il y a un directoire, un comité de surveillance?
Il y a des assemblées générales où les délégués des différents départements viennent voter les propositions qui sont faites par le conseil d'administration, en fait, systématiquement.
Alors, comment se passent les relations avec la sécurité sociale ?
Bah écoutez, sur le département, ça se passe relativement bien, hein. Y a pas de souci, on les rencontre assez régulièrement, on a des contacts ou bien par téléphone ou bien au cours de réunions très formelles, mais ça se passe très très bien, et je crois qu'à mon avis, tant qu'on fait bien notre boulot et qu'on remplit bien notre travail, et puis on défend tous les deux la même chose, je dirais que mutualité et sécurité sociale, on défend une sécurité sociale comme elle existe depuis 1945, basée sur la solidarité, sur l'équité, sur le fait que chaque travailleur chaque Français qui est sur le territoire français a droit le même traitement, le même remboursement, quelles que soient ses finances, mais par rapport à la maladie qui le touche à chaque fois.
Depuis 1948, la santé a beaucoup évolué en termes de pratiques, de compétences, de résultats. Ces résultats sont souvent liés à des examens, des procédures médicales qui sont parfois complexes et coûteuses. Comment la MGN peut, j'allais dire, tenir le coup avec des coûts qui sont de plus en plus élevés?
Mais le problème, il est assez général, il n'est pas que sur la MGN. C'est vrai que le problème, c'est est-ce qu'il faut maîtriser les dépenses de santé? On a une population vieillissante, on a du progrès technique qui fait qu'effectivement les soins sont de plus en plus chers. Alors je crois qu'il va falloir faire un choix. Et que la recherche de toute façon, la recherche et l'évolution des techniques, on peut pas passer à côté puisque c'est un progrès de toute façon. Je crois que ça, c'est un fait. Par contre, le coût, il va falloir effectivement se poser la question de comment on finance ce coût. Et pour l'instant, c'est pas la question qui a été posée dans les réformes, en fait. À chaque fois, on se pose le problème d'augmenter les cotisations ou de diminuer les remboursements. Mais c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de la sécurité sociale et des mutuelles qui y sont accrochées.
Alors, qui est-ce qui porte la réflexion? C'est l'Assemblée Générale, des adhérents de l'MGN?
Oui, alors c'est au niveau du conseil d'administration qu'il y a une réflexion qui est menée, qui répercute ces réflexions au niveau des adhérents. Et puis, tous les ans, au sein de l'MGN, on a ce qu'on appelle des régionales, deux fois par an, où on débat en fait régionalement les cinq départements Nord-Pas-de-Calais et Picardie, où on débat en fait des avancées qu'on pourrait proposer, de ce qui pourrait être fait, etc. Après, c'est revu en conseil d'administration, il y a des propositions qui sont faites pour l'Assemblée Générale, et puis à ce moment-là, il y a des votes qui sont organisés.
Alors on a parlé des coûts des soins, on va dire, d'une manière générale, des prises en charge aussi. Alors, qui prend en charge quoi? Bon, pour d'autres, c'est la sécurité sociale et la mutuelle qui complètent. Là, visiblement, vous faites les deux, non?
Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire qu'on a une partie de nos prestations, en fait, qui sont accrochées directement à la sécurité sociale, qui viennent en complément, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle le 100% sécurité sociale. Et puis, on a des prestations tout à fait spécifiques qui viennent en complément, là où la sécurité sociale ne rembourse pas, ou des choses comme ça. Bon, la MGN a été précurseur sur certains soins, sur certains types de prise en charge, à l'époque où la sécurité sociale ne les prenait pas et qui sont maintenant rentrés dans les mœurs.
C'est vrai que maintenant, le malade, le patient, d'une manière générale, voire le citoyen, est habitué, pour une certaine partie de la population, peut-être les plus nantistes, à définir, à ne plus rien payer chez le médecin.
C'est souvent le reproche qui est fait par les professions, les professionnels de santé, que par le fait du tiers payant, etc., les gens ne se rendent plus compte du coût de la santé. Certains vont même beaucoup plus loin dans certaines professions en disant qu'ils ne reconnaissent pas leur art. Puisque, vu les années d'études, etc., c'est vrai qu'ils exercent un art et que leur art n'est pas reconnu à partir du moment où la personne ne paye pas directement. Alors, bon, ça peut se discuter, mais il est vrai que les gens, bon, moi je pars du principe que les gens chez nous payent des cotisations, et qu'à partir du moment où ces cotisations sont payées, ils nous donnent le droit de payer pour eux, de faire des avances de frais au niveau des professionnels de santé, directement et qu'on paye directement. Bon, je veux dire, ça se fait régulièrement maintenant au niveau des pharmaciens. Ça, c'est quelque chose qui est acquis quasiment partout chez tous les pharmaciens. C'est vrai que chez les médecins, c'est un petit peu plus dur parce que pour eux, une carte vitale n'est pas une carte bleue, quoi. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça.
Néanmoins, il y a un certain sens, quoi. Je veux dire, il y a une évolution qui se fait plutôt vers des prises en charge complètes,
oui.
et que la carte vitale sert de passe partout.
Oui, 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 c'est sûr que bon, pour certaines personnes, le fait d'avoir la carte vitale entraîne de pas avoir à payer. Bon, ça peut poser, je vous dis, certains problèmes avec certaines professions. Mais bon, est-ce qu'il faut le généraliser? Je sais pas, parce qu'effectivement, il y a des soins qui sont très très chers et qui peuvent nécessiter quand même un tiers payant parce que les gens n'ont pas la possibilité de faire les avances de frais. Ça me paraît évident. Bon, je pense aux soins de dentisterie ou d'optique qui sont pas pris en charge, qui sont quasiment pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais sur des consultations, des choses comme ça, je crois que bon, il y a un effort qui pourrait être fait, puisque donc, pour une vingtaine d'euros, c'est vrai qu'un médecin pourrait faire le pas, quoi.
Alors, on parle beaucoup en ce moment d'une carte professionnelle, une carte magnétique ou je ne sais pas, une carte à puce, dans laquelle serait consigné un petit peu tout le parcours médical du salarié, pour qu'il ait après des possibilités peut-être de recours, d'avoir un historique par rapport à des événements de santé liés à son milieu professionnel. Pourquoi ce n'est pas sur la carte vitale ?
Alors ça doit venir sur la nouvelle carte vitale qui est en cours de distribution là depuis maintenant à peu près un an. Donc c'est-à-dire que toute nouvelle carte vitale, sur les nouvelles cartes vitales figure la photo, c'est la fameuse carte vitale avec la photographie qui avait posé tant de problèmes à l'époque, et dans la puce seront contenues effectivement les données de santé. Alors dans la puce ou par échange informatique entre le système de gestion de la personne et l'ordinateur du praticien. Les gens vont pouvoir s'opposer au fait qu'un médecin puisse accéder à ces données médicales, mais il faut savoir qu'en échange, la sécurité sociale les remboursera moins. C'est le même système que le médecin traitant. Si vous n'avez pas de médecin traitant maintenant déclaré, vous allez payer beaucoup plus cher vos consultations. Si la personne refuse que le médecin puisse accéder à votre dossier médical, ce sera considéré comme hors parcours de soins, donc vous allez payer beaucoup plus cher votre consultation. Bon, l'idée n'est pas mauvaise, puisque le but du jeu, c'est d'éviter que un médecin represcrive des radios ou des analyses de sang, des choses comme ça, à une personne qui en a déjà eu une semaine avant, de par un autre médecin. L'idée de base n'est pas forcément mauvaise, mais on risque de rentrer dans des choses un peu complexes et qui touchent à la vie un peu intime. Donc, bon, il y a du pour et du contre. Même sur
ce parcours santé dont vous parliez, c'est vrai que, par exemple, pour voir un spécialiste, il faut voir un médecin qui renvoie à peu près chez le spécialiste qui lui-même renvoie chez le médecin. Ça fait trois consultations, vous allez dire, pour le prix d'une ?
Oui, hélas, non, pas pour le prix d'une, mais c'est bien pour le prix de trois consultations à chaque fois.
Donc ça fait quand même lourd pour certaines choses.
C'est très très lourd, mais notre système de soins est fait de telle sorte qu'on a des médecins dits généralistes qui sont hélas pas des spécialistes du généralisme. Et qui sont obligés d'envoyer chez un spécialiste, cardiologue ou neurologue, etc.
Mais même ces spécialistes ne sont pas non plus généralistes de leur spécialité. Je veux dire, un spécialiste qui détecte que tel problème n'enlève pas de sa compétence, renvoie chez le médecin traitant, qui renvoie encore chez un autre spécialiste, et ça peut durer un certain temps.
Tout à fait, ça peut durer un certain temps. Et le problème français, c'est le problème du paiement à l'acte. Là-dessus, je crois qu'il faudra peut-être voir un jour, mais ça, les professionnels de santé, ils ne sont pas tous prêts. Il y a une personne qui rentre dans le cadre d'une maladie. Je crois qu'il faut qu'il y ait une prise en charge qui soit faite globalement et que le premier médecin, à la limite, qui oriente simplement, soit peut-être payé moins et que les autres puissent être payés un peu plus pour le suivi de la personne dans le cadre de sa maladie. Mais c'est l'histoire du paiement à l'acte, en fait, qui entraîne tout ça et qui fait que forcément les dépenses sont énormes pour les patients.
Hein. Alors, au-delà des dépenses, il y a aussi le problème de la disponibilité des médecins. Vous savez que dans notre région, enfin, vous en parlerez, il y a relativement peu de médecins par rapport à la population. Certains médecins ont plutôt tendance à aller vers le sud de la France ou dans d'autres régions peut-être plus intéressantes, voire plus lucratives, où on peut peut-être pratiquer le dépassement d'honoraires.
Oui, aussi, oui, il y a ça aussi qui intéresse beaucoup.
Donc tout cela, ça fait que notre région est quand même un petit peu handicapée, on va dire, déjà que les personnes de notre région ne sont pas forcément dans la meilleure santé en France, et qu'au-delà de ça, les médecins sont surchargés. On peut dire que certains rendez-vous, ça devient inadmissible d'avoir des rendez-vous de 2 mois, 3 mois, je parle pour, par exemple, les oculistes ou des gens comme ça, hein, ça devient quand même critique, notre région.
Oui, bon, il y a le gros problème de base qui est le fameux numerus clausus au niveau de l'entrée à l'université, en fac de médecine, qui n'évolue pas beaucoup, alors qu'on sait très bien qu'on a une population de médecins qui est une population vieillissante, et que dans 4-5 ans, on va manquer d'anesthésistes, on va manquer de chirurgiens, on va manquer de ce genre de choses. On manque déjà d'ophtalmo et ce genre de spécialité.
Alors là, on m'a dit qu'à Lille 2, ils avaient quand même recruté davantage, dépassé un petit peu ce numérus pour préparer l'avenir.
Alors, ils l'ont un peu augmenté, mais il n'a pas augmenté de beaucoup. Je crois qu'ici, je vais peut-être vous dire des bêtises, mais je crois qu'il n'a pas augmenté de 100. Quoi, hein. Mm-hmm. Donc, derrière, pour former un anesthésiste, il faut 9 ans. Et on sait très bien que dans 5 ans, on va en manquer. En plus, ceux qu'on va former ici sur l'île ne sont pas forcément ceux qui vont exercer sur la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est vrai que là, il y a un véritable manque et je crois qu'il y a une prospective qui n'est pas du tout pris en compte. Et on va, à mon avis, vers une catastrophe sanitaire, oui, parce qu'on aura un manque important comme on l'a actuellement pour les ophtalmos.
Alors, c'est vrai que faire du protectionnisme à l'intérieur de la France, c'est un peu difficile. Par contre, des incitations pour que ces médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, restent dans la région, il y a peut-être quelque chose à faire.
Ça a été fait au niveau de la Normandie. La Normandie avait été précurseur là-dessus en faisant des aides en fait, aux nouveaux médecins qui s'installaient sur la région. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ça commence à se faire aussi, et surtout pour les régions désertées. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait... Le problème, c'est que le médecin a la liberté d'installation. Mm-hmm. Alors le problème, je le mets entre guillemets, parce que je ne veux pas me faire de copains dans la profession, mais c'est vrai qu'ils ont la liberté d'installation, et tant qu'on ne pourra pas dire mais vous avez des aides ou vous allez là, parce que là, on manque de professionnels de santé, on n'y arrivera jamais. Parce que c'est vrai qu'actuellement, bon, même si on prend notre région, elle est un petit peu rural, mais c'est pas bon, surtout plus sur le Pas-de-Calais, etc. Mais il y a des endroits où c'est le désert total, où il n'y a aucun médecin. Et les gens doivent faire une quinzaine de kilomètres pour trouver un médecin, même un médecin généraliste.
Mmh. Si on parle maintenant des médicaments, je pense que la France est un des pays, sinon le pays, qui consomme le plus de médicaments.
Oui, alors d'après les études qui sont faites, on consomme effectivement beaucoup de médicaments. Mais, je mets toujours un mais, parce que si les patients les consomment, c'est qu'on leur a prescrit. Donc c'est peut-être aussi un problème de prescription à la base. Alors il y a effectivement des gens qui arrivent chez le médecin en disant « ben moi j'ai besoin de ça, 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 ça » et qui ressortent effectivement avec l'ordonnance. Mais il y a le problème est double. Hein. Il y a vraiment un problème de prescription. C'est-à-dire les médecins qui prescrivent pas mal de médicaments en se disant bah, au moins on va faire très large pour cerner le problème tout de suite. Et puis des patients, certains qui en réclament un peu plus que ce qu'ils ont besoin.
Il n'y a pas aussi un problème de lobbying des laboratoires pharmaceutiques ?
Alors, les laboratoires pharmaceutiques, c'est sûr que eux, quand ils ont beaucoup d'argent à mettre sur les visiteurs médicaux qui passent chez les médecins. Et c'est vrai qu'il y a certains médecins qui fonctionnent très bien avec eux, mais parce qu'ils sont inondés d'informations. Je dirais que les infos qui tombent sur les médecins, elles sont c'est de pire en pire, et ils n'arrivent pas à faire le tri sur tout, entre les gazettes qu'ils reçoivent, les mails, les choses comme ça, et les visiteurs médicaux. Mais c'est vrai que le premier qui arrive à les convaincre, vous êtes à peu près certain qu'en sortant, vous allez l'avoir sur votre ordonnance. Là.
Est-ce qu'on peut dire que les visiteuses médicales sont l'ennemi du générique ?
Mais tant que les labos ne seront pas un peu plus... un peu moins fermés sur les génériques, c'est sûr que pour l'instant, c'est les grands ennemis des génériques. Oui.
Est-ce que ces génériques ont une réelle... équivalence en termes d'efficacité ?
Vaste débat. Bon, n'étant pas médecin, moi je peux pas vous le prouver. Je crois ce qu'on me dit, donc je reste persuadé que oui. Mais il y a des gens qui sont persuadés du contraire et que c'est moins efficace. Pour moi, un générique, dans sa définition, c'est le même principe de base, le même principe actif de base que tout autre médicament. Donc à partir de là, normalement, ça doit avoir effectivement le même effet sur une maladie qu'un autre médicament.
Est-ce que la situation en France est un peu identique à celle des autres pays européens ?
Elle est un peu différente parce que quelque part on a toujours derrière nous le fait qu'on se soigne mieux en France qu'ailleurs. Bon, en Europe, il y a peut-être moins de... On n'a pas non plus la même organisation, donc les systèmes de dépenses de soins sont moins, sont moins voyants. C'est-à-dire que les gens se soignent peut-être effectivement par d'autres moyens qui ne sont pas pris en charge par leur sécurité sociale locale ou leur complémentaire santé, mais on n'a pas de chiffres précis du fait, puisque ça n'apparaît nulle part dans les dépenses de santé. Nous, tout apparaît, puisque tout est pris en charge ou bien par l'État ou par les complémentaires santé qui sont obligés de donner des chiffres précis sur leurs dépenses, quoi. Donc là, on a une vision bien plus large et bien plus globale sur le problème.
Alors, au-delà des prescriptions médicales, il y a aussi les journées de congé maladie. Est-ce que la mutuelle intervient, finance, comment ça se passe, les prises en charge en ce domaine ?
Oui, alors nous, c'est assez spécial parce qu'au niveau des fonctionnaires de l'État et au moins des fonctionnaires de l'éducation nationale, ils sont pris en charge par l'État pendant au moins 3 mois. Mm-hmm. Contrairement aux salariés des entreprises qui, au bout de 3 jours, sont sans traitement, donc repris en charge par l'employeur, etc. Au niveau des fonctionnaires de l'éducation nationale, il y a 3 mois où ils sont payés à plein traitement. Et au début du 4e mois, il passe à demi-traitement, en fait, uniquement à ce moment-là. Donc là, nous avons une prestation complémentaire au niveau de la MGEN qui permet de combler une partie de cette perte de salaire.
Alors tout le monde n'a pas la chance d'être en bonne santé. Pour l'instant, le système, on peut dire que c'est quand même un des meilleurs au monde. On nous l'envie, en tout cas.
On nous l'envie, mais c'est vrai qu'il présente quelques problèmes parce qu'il vieillit et qu'il ne s'est pas adapté assez vite au changement. Le gros problème pour l'instant, c'est le financement de la sécurité sociale, puisque quand le système a été créé, on était en pleine reconstruction du pays, basé uniquement sur les travailleurs salariés à la base, et donc tout le monde cotisait quasiment. Actuellement, avec les problèmes de chômage, etc., la vieillesse de la population et tout, les dépenses sont beaucoup plus importantes et on a moins de cotisations qui rentrent.
Quand on parle du trou de la sécurité sociale, c'est un mythe ou c'est quelque chose qui, au regard des sommes dépensées par ailleurs dans la politique de l'État, par exemple, c'est quelque chose d'un petit peu ridicule ?
Pour moi, c'est un mythe, c'est même une philosophie, en fait. Ça fait très bien pour les gens qui voudraient que la sécurité sociale soit plus quelque chose pris en charge par l'État et que ça soit privatisé. Pour moi, c'est inéluctable. Je veux dire, le trou de la sécu, il est inéluctable parce que la société a changé, qu'il y a des progrès techniques qui sont en route et qu'on peut pas refuser, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Un scanner, c'est quand même mieux que... une simple palpation par un médecin pour se rendre compte de certaines maladies. On a une population qui vieillit. On a aussi un marché de la santé qui est complètement différent et un état d'esprit qui est différent. C'est-à-dire que les gens maintenant sont très contents d'être en bonne santé et ils dépensent de l'argent pour être en bonne santé. Mmh. Alors qu'avant, c'est vrai que dans les années 45, on allait chez le médecin vraiment quand on était malade. C'est vrai que maintenant, il y a une consommation de soins qui est importante, mais pour le bien-être.
Mais le fait d'être en bonne santé au niveau général, je veux dire, ça peut aussi contribuer à ce que les entreprises soient performantes, parce que les gens qui y travaillent sont aussi performants, ils sont en meilleure santé que dans certains pays où ils sont esclaves, exploités et mal soignés.
C'est sûr, tout à fait. Mais je crois qu'il faudrait aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que pour être en bonne santé, il faudrait peut-être qu'on arrête de faire que du curatif en France et qu'on passe à de la vraie prévention. Mm-hmm. Et que la prévention soit un peu plus importante que ce qu'elle est actuellement dans le système de soins français, parce que ça n'existe pas.
Alors c'est vrai que cette prévention, elle pourrait se faire bien en amont, j'allais dire dès l'enfance, peut-être à l'école déjà. Pour l'instant, effectivement, il y a quelques visites médicales, je veux dire une ou deux à l'école, après peut-être au collège. Est-ce que le rôle du médecin scolaire, par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse ?
Le rôle du médecin scolaire, il est important. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas non plus assez nombreux. Et qu'ils voient les enfants, mais une fois, comme ça, de temps en temps, il n'y a pas véritablement de suivi quoi, au niveau de la scolarité. Les enseignants, on peut bien leur demander d'apprendre aux enfants à se brosser les dents en maternelle ou de leur apprendre
à se laver les mains aussi.
À se laver les mains, etc. Tout ce genre de choses. Mais bon, les enseignants ne peuvent pas tout faire non plus. Mmh. Il y a aussi une partie, les parents qui doivent être formés. Mais rien que sur l'alimentation, sur comment. Quand on rentre d'avoir joué dehors, effectivement, on se lave les mains. Avant de passer à table, on se lave les mains. On mange à table, on mange pas devant la télé. On boit pas de coca à n'importe quelle heure. On mange pas de sucreries à n'importe quelle heure, etc.
Je crois que la MGEN a des films à disposition des publics scolaires pour justement la sensibilisation, aider les enseignants à donner quelques règles de base.
Oui, on avait fait pas mal de vidéos pendant un temps. Bon, maintenant, on est passé au CD quand même et au DVD. Et on a une association en fait qui est la Dozen, qui travaille en conjointement avec nous et qui fabrique des jeux, des vidéos et quantité de matériel pour aider les enseignants justement dans leur classe à travailler ce genre de problème en prévention.
Mmh. Alors, on a parlé des malades en France ou des gens qui ne sont pas malades en France. Est-ce que quand quelqu'un qui est issu, disons, de votre champ de compétences part à l'étranger, il y a des règles particulières?
Alors, tout dépend où il s'en va à l'étranger. Merci. Et la durée. Donc, si c'est sur l'Europe, il commence à y avoir des accords entre pays européens. Bon, nous, en particulier avec la Belgique, puisqu'on est frontalier, il commence à y avoir des accords sur les possibilités de soins à l'étranger, mais qui ne sont pas complètement écrits encore et finalisés. Par contre, dès que vous partez en dehors de l'Europe, il y a des imprimés spécifiques à avoir sur soi, forcément. Et si vous partez vivre et travailler à l'étranger, on a une section qui est spécifique, qui s'occupe des gens qui travaillent à l'étranger.
Donc, pour des informations complémentaires à cette émission qui est toujours trop courte, peut-être qu'on peut renvoyer soit sur un site internet, soit sur une permanence.
Oui, alors le site de la MGEN, c'est mgen.fr, tout simplement. Et là, c'est le site national et on peut accéder, suivant le département où on habite, on peut accéder à un site local avec les adresses des sections MGEN, là où elles se situent. Bon, nous, pour le Nord, on est juste devant la mairie de Lille, c'est pas trop compliqué à trouver, voilà. Ça va. Et puis, j'espère bientôt, cette année, avoir deux sites qui s'ouvrent, un peu plus petits que le site qu'on a sur Lille, mais un sur Dunkerque, un sur Valenciennes, pour être au plus près de nos assurés sociaux et de nos mutualistes et pouvoir les aider. Voilà.
Très bien. Pour conclure en quelques secondes, M. Dorchy, sur les perspectives et vos voeux pour l'année 2009.
Oh, mes voeux pour l'année 2009, ce serait que déjà on se sorte sans trop de mal, tous, hein, je ne parle pas que pour la MGN, mais qu'on se sorte sans trop de mal de ce raz-de-marée qui nous arrive des États-Unis et qui est en train de submerger toute l'économie française et qui risque de faire très mal, qui va encore nous causer pas mal de chômage, donc à mon avis encore des problèmes de cotisation pour la Sécu, et on va encore nous parler du trou, ça j'en suis sûr, mais que tout le monde soit en bonne santé et que tout aille bien.
C'est ce problème que vous venez de dire, est-ce que justement le fait qu'il y ait cette crise et cette moins bonne confiance dans les modèles américains feront que le modèle français résistera mieux?
Je crois qu'on a une petite chance de mieux résister, mais parce qu'on a un tissu social, mais qui est très important sur le Nord-Pas-de-Calais, dans quelques régions comme ça, qui est tout le système de l'économie sociale, toutes les associations, les mutuelles, etc., qui subsistent encore au niveau local. Je crois que c'est ça qui nous fera tenir le coup.
Merci, M. Dorchy.
De rien, c'est moi qui vous remercie.